Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Jusque-là, il y avait les magazines, la salle de sport et le cinéma, puis la musique et les séries ou les films avec Netflix. Désormais, on peut s'abonner pour tout et n'importe quoi. Des vêtements de luxe avec la bibliothèque, des voyages, des produits du quotidien, de l'électroménager et beaucoup d'autres choses. 38% des Français ont eu au moins 6 abonnements l'an passé, ce qui fait de nous les champions européens en la matière. Et ce n'est que le début. Cette façon de consommer va gagner du terrain dans quelques années. Qu'il s'agisse de faciliter l'accès à des services culturels ou l'acquisition de produits à renouveler régulièrement, comme des bouteilles d'eau ou des capsules de café, l'abonnement simplifie la vie.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Jusque-là, il y avait les magazines, la salle de sport et le cinéma, puis la musique et les séries ou les films avec Netflix. Désormais, on peut s'abonner pour tout et n'importe quoi. Des vêtements de luxe avec la bibliothèque, des voyages, des produits du quotidien, de l'électroménager et beaucoup d'autres choses. 38% des Français ont eu au moins 6 abonnements l'an passé, ce qui fait de nous les champions européens en la matière. Et ce n'est que le début. Cette façon de consommer va gagner du terrain dans quelques années. Qu'il s'agisse de faciliter l'accès à des services culturels ou l'acquisition de produits à renouveler régulièrement, comme des bouteilles d'eau ou des capsules de café, l'abonnement simplifie la vie. Deux.
Le terme « fubbing », formé à partir des mots anglais « fun » et « snubbing », qui signifie « ignorer », a été inventé pour qualifier un comportement asocial qui nous fait préférer notre smartphone à la relation humaine. Rédiger des SMS à table, consulter sa page Facebook au nez des gens, faire des selfies à tout moment, cette addiction aux technologies est même devenue une norme dans la communication moderne. Les scientifiques ont confirmé qu'un tel comportement était provoqué par le stress. Ajoutons que les portables pourraient bien nous faire perdre la mémoire. On a peur que, du fait de la disponibilité immédiate des données, nous ne fassions plus l'effort de nous souvenir. En France, la dépendance aux écrans est devenue une question de santé publique, notamment chez les enfants et les ados.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Le terme « fubbing », formé à partir des mots anglais « fun » et « snubbing », qui signifie « ignorer », a été inventé pour qualifier un comportement asocial qui nous fait préférer notre smartphone à la relation humaine. Rédiger des SMS à table, consulter sa page Facebook au nez des gens, faire des selfies à tout moment, cette addiction aux technologies est même devenue une norme dans la communication moderne. Les scientifiques ont confirmé qu'un tel comportement était provoqué par le stress. Ajoutons que les portables pourraient bien nous faire perdre la mémoire. On a peur que, du fait de la disponibilité immédiate des données, nous ne fassions plus l'effort de nous souvenir. En France, la dépendance aux écrans est devenue une question de santé publique, notamment chez les enfants et les ados.
Trois. Les réseaux sociaux font-ils naître des besoins ?
Le terme de « désir » me semble plus adapté. Avec Instagram, les réseaux sociaux sont devenus une sorte de vitrine idéalisée. Ils exercent la même tyrannie normative que les magazines féminins. Tout y est mis en scène et nourrit une culture de l'idéal. Avoir un corps parfait, être une mère parfaite, etc. Grâce à cela, on va vouloir la même robe que telle influenceuse célèbre, la même montre qu'une autre. C'est un mécanisme terriblement efficace et les gens doivent en prendre conscience.
Pourquoi ? Est-ce dangereux ?
Ça peut l'être, car cela crée des frustrations. On craint de ne pas être à la hauteur de ces modèles. Une étude récente a montré que les réseaux augmentent le risque de solitude, d'angoisse et d'insomnie, particulièrement chez les adolescents, car à leur âge, l'image de soi est encore plus importante que chez les adultes.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Les réseaux sociaux font-ils naître des besoins ?
Le terme de « désir » me semble plus adapté. Avec Instagram, les réseaux sociaux sont devenus une sorte de vitrine idéalisée. Ils exercent la même tyrannie normative que les magazines féminins. Tout y est mis en scène et nourrit une culture de l'idéal. Avoir un corps parfait, être une mère parfaite, etc. Grâce à cela, on va vouloir la même robe que telle influenceuse célèbre, la même montre qu'une autre. C'est un mécanisme terriblement efficace et les gens doivent en prendre conscience.
Pourquoi ? Est-ce dangereux ?
Ça peut l'être, car cela crée des frustrations. On craint de ne pas être à la hauteur de ces modèles. Une étude récente a montré que les réseaux augmentent le risque de solitude, d'angoisse et d'insomnie, particulièrement chez les adolescents, car à leur âge, l'image de soi est encore plus importante que chez les adultes.
Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Je suis sortie de la vie professionnelle en mars l'an dernier, comme on sort de l'hiver. J'avais envie de me consacrer à notre jardin. Jean, mon mari, retraité comme moi, a proposé de tout tailler pour laisser rentrer le soleil et y voir plus clair afin de replanter, créer un potager. Pas si vite. Avant de couper, je voulais prendre le temps de réfléchir. Nous nous sommes mis d'accord sur le coin sieste, sur le chemin bordé de fraisiers et la terrasse mieux située pour déjeuner à l'ombre. Nous nous sommes réappropriés cet espace, la maison nous semble maintenant plus grande, plus belle, et je savoure la sensation apaisante de me sentir enfin à ma place dans mon jardin.
Deux. Cela fait sourire certains cartésiens, mais les neurosciences démontrent l'interaction positive entre l'état psychique et la seule contemplation de la nature. C'est là, dans mon jardin, que j'ai retrouvé mon bonheur et ça me guide pour trouver les bons gestes avec les plantes. Mais il faut aussi être actif. Désherber, ramasser les feuilles tous les automnes, c'est sans fin. On sait bien que les saisons tournent, mais une fois dans le jardin de ma maison, cela devient très concret. Au début, je n'étais pas sûr d'aimer, mais petit à petit, je suis devenu accro parce que je peux bouger, faire travailler mes articulations et m'exposer à la lumière. Trois.
J'ai quitté un appartement au centre-ville de Lyon et en m'éloignant à la campagne, j'ai pu loger dans une petite maison avec un bout de terre. J'étais ravie, mais je ne savais rien faire au jardin. Au début, j'ai planté plein de fleurs ici et là, mais la plupart d'entre elles n'ont pas tenu le coup. Je suis donc allée visiter les jardins de mes nouveaux voisins. Je me suis abonnée à une revue spécialisée et au bout de quelques mois, j'ai su davantage comment m'y prendre. J'ai aussi cherché dans mon passé, j'ai fait la liste de mes fleurs préférées. Je les avais toutes vues, senties et cueillies dans le jardin de ma grand-mère. Du coup, j'ai mis des capucines, des dahlias, des soucis.
Quatre. Belle leçon de vie que j'ai découverte très tard. En me mettant à faire du jardinage, j'ai vite compris que je n'allais pas choisir le moment de planter. C'est la nature qui décide pour nous, et face à elle, nous sommes tout petits. Le jardin est à la fois notre boussole et notre horloge. Je crois que jardiner a modifié indirectement mes rapports avec mes collègues et avec ma famille pour être un peu plus vivable. Pourtant, il ne faudrait pas confondre le jardin de la maison avec un cabinet de coaching ou une salle de sport. Seul le plaisir nous y mène et chaque moment est un cadeau. 1.
Je suis sortie de la vie professionnelle en mars l'an dernier, comme on sort de l'hiver. J'avais envie de me consacrer à notre jardin. Jean, mon mari, retraité comme moi, a proposé de tout tailler pour laisser rentrer le soleil et y voir plus clair afin de replanter, créer un potager. Pas si vite. Avant de couper, je voulais prendre le temps de réfléchir. Nous nous sommes mis d'accord sur le coin sieste, sur le chemin bordé de fraisiers et la terrasse mieux située pour déjeuner à l'ombre. Nous nous sommes réappropriés cet espace, la maison nous semble maintenant plus grande, plus belle, et je savoure la sensation apaisante de me sentir enfin à ma place dans mon jardin.
2. Cela fait sourire certains cartésiens, mais les neurosciences démontrent l'interaction positive entre l'état psychique et la seule contemplation de la nature. C'est là, dans mon jardin, que j'ai retrouvé mon bonheur et ça me guide pour trouver les bons gestes avec les plantes. Mais il faut aussi être actif. Désherber, ramasser les feuilles tous les automnes, c'est sans fin. On sait bien que les saisons tournent, mais une fois dans le jardin de ma maison, cela devient très concret. Au début, je n'étais pas sûr d'aimer, mais petit à petit, je suis devenu accro parce que je peux bouger, faire travailler mes articulations et m'exposer à la lumière. 3.
J'ai quitté un appartement au centre-ville de Lyon et en m'éloignant à la campagne, j'ai pu loger dans une petite maison avec un bout de terre. J'étais ravie, mais je ne savais rien faire au jardin. Au début, j'ai planté plein de fleurs, ici et là, mais la plupart d'entre elles n'ont pas tenu le coup. Je suis donc allée visiter les jardins de mes nouveaux voisins. Je me suis abonnée à une revue spécialisée et au bout de quelques mois, j'ai su davantage comment m'y prendre. J'ai aussi cherché dans mon passé, j'ai fait la liste de mes fleurs préférées. Je les avais toutes vues, senties et cueillies dans le jardin de ma grand-mère. Du coup, j'ai mis des capucines, des dahlias, des soucis.
4. Belle leçon de vie que j'ai découverte très tard. En me mettant à faire du jardinage, j'ai vite compris que je n'allais pas choisir le moment de planter. C'est la nature qui décide pour nous, et face à elle, nous sommes tout petits. Le jardin est à la fois notre boussole et notre horloge. Je crois que jardiner a modifié indirectement mes rapports avec mes collègues et avec ma famille pour être un peu plus vivable. Pourtant, il ne faudrait pas confondre le jardin de la maison avec un cabinet de coaching ou une salle de sport. Seul le plaisir nous y mène et chaque moment est un cadeau.
3. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Robert Bellerey est l'auteur de la biographie de Charles Aznavour, dans laquelle il présente ce chanteur célèbre d'origine arménienne. Quelle était l'importance de la langue française pour Charles Aznavour ?
Charles Aznavour disait que son pays, c'est la langue française. Je trouve cette phrase magnifique car elle résume tout. Enfant, ses parents ne parlaient pas le français. Aznavour a appris la langue dans la rue car il était très peu allé à l'école. Il disait d'ailleurs qu'il avait plus appris d'argot que de français. Son attachement à la langue est incontestable et très émouvant. Il faisait encore, jusqu'à la fin, quelques petites fautes de syntaxe. Charles Aznavour a d'autant plus de mérite qu'il n'était pas un grand lecteur. Il disait l'être, mais à l'âge de 35-40 ans, il n'avait pas ouvert un livre. Selon sa femme, il ne lisait pas pour ne pas se faire influencer. Ce n'était pas un lecteur, mais c'était un curieux. Il lisait les dictionnaires. Il aimait apprendre des mots.
Dans quelle langue chantait-il ?
Il chantait en français, en anglais, en espagnol et en italien. Il a dû faire une ou deux chansons en russe, mais c'est tout. Il a chanté en arménien pour faire plaisir à sa fille, mais il refusait de chanter dans cette langue sur scène. Il disait « Si je chante en arménien une fois, ils vont m'en demander 10 et je ne m'en sortirai plus. » Quand il était jeune, ses origines ne l'intéressaient pas beaucoup. Puis il a eu un déclic et il a renoué avec elle. Mais il n'a jamais dit qu'il était un chanteur franco-arménien. Il était, selon ses mots, un chanteur français d'origine arménienne.
Et l'anglais ? Charles Aznavour connaissait-il cette langue ?
Il était devenu excellent en anglais, et pourtant il n'en a jamais appris une ligne à l'école. Il s'est immergé dans le grand bain, comme il l'avait fait pour le français. Il a débarqué à New York avec Edith Piaf. Il était son secrétaire, son chauffeur et son éclairagiste. Il ne chantait pas, mais tous les jours, il admirait son talent. Puis un jour, il s'est lancé dans la rue. Il a appris l'anglais comme ça. Mais il n'a jamais abandonné le français pour l'anglais. Il a toujours trouvé scandaleux les Français qui chantent en anglais.
Pourquoi ces chansons ont-elles autant marqué les Français ?
Ces chansons sont très fortes parce qu'elles véhiculent des émotions. Elles donnent la chair de poule. Aznavour avait un vocabulaire assez pauvre, mais il l'utilisait merveilleusement. Si certains de ses titres ont été écrits par d'autres que lui, il écrivait néanmoins de la grande poésie. Il n'était ni Rimbaud, ni Ferré, mais savait raconter des histoires formidables. C'était aussi un très grand comédien. Il aurait pu faire une carrière extraordinaire. Charles Aznavour est l'artiste de tous les records. Il est connu pour ses 180 millions de disques vendus dans le monde, 1200 chansons chantées dans 7 langues, des spectacles dans 94 pays et 60 participations à des films.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Robert Bellerey est l'auteur de la biographie de Charles Aznavour, dans laquelle il présente ce chanteur célèbre d'origine arménienne. Quelle était l'importance de la langue française pour Charles Aznavour ?
Charles Aznavour disait que son pays, c'est la langue française. Je trouve cette phrase magnifique car elle résume tout. Enfant, ses parents ne parlaient pas le français. Aznavour a appris la langue dans la rue car il était très peu allé à l'école. Il disait d'ailleurs qu'il avait plus appris d'argot que de français. Son attachement à la langue est incontestable et très émouvant. Il faisait encore, jusqu'à la fin, quelques petites fautes de syntaxe. Charles Aznavour a d'autant plus de mérite qu'il n'était pas un grand lecteur. Il disait l'être, mais à l'âge de 35-40 ans, il n'avait pas ouvert un livre. Selon sa femme, il ne lisait pas pour ne pas se faire influencer. Ce n'était pas un lecteur, mais c'était un curieux. Il lisait les dictionnaires. Il aimait apprendre des mots.
Dans quelle langue chantait-il ?
Il chantait en français, en anglais, en espagnol et en italien. Il a dû faire une ou deux chansons en russe, mais c'est tout. Il a chanté en arménien pour faire plaisir à sa fille, mais il refusait de chanter dans cette langue sur scène. Il disait « Si je chante en arménien une fois, ils vont m'en demander 10 et je ne m'en sortirai plus. » Quand il était jeune, ses origines ne l'intéressaient pas beaucoup. Puis il a eu un déclic et il a renoué avec elle. Mais il n'a jamais dit qu'il était un chanteur franco-arménien. Il était, selon ses mots, un chanteur français d'origine arménienne.
Et l'anglais ? Charles Aznavour connaissait-il cette langue ?
Il était devenu excellent en anglais, et pourtant il n'en a jamais appris une ligne à l'école. Il s'est immergé dans le grand bain, comme il l'avait fait pour le français. Il a débarqué à New York avec Edith Piaf. Il était son secrétaire, son chauffeur et son éclairagiste. Il ne chantait pas, mais tous les jours, il admirait son talent. Puis un jour, il s'est lancé dans la rue. Il a appris l'anglais comme ça. Mais il n'a jamais abandonné le français pour l'anglais. Il a toujours trouvé scandaleux les Français qui chantent en anglais.
Pourquoi ces chansons ont-elles autant marqué les Français ?
Ces chansons sont très fortes parce qu'elles véhiculent des émotions. Elles donnent la chair de poule. Aznavour avait un vocabulaire assez pauvre, mais il l'utilisait merveilleusement. Si certains de ses titres ont été écrits par d'autres que lui, il écrivait néanmoins de la grande poésie. Il n'était ni Rimbaud, ni Ferré, mais savait raconter des histoires formidables. C'était aussi un très grand comédien. Il aurait pu faire une carrière extraordinaire. Charles Aznavour est l'artiste de tous les records. Il est connu pour ses 180 millions de disques vendus dans le monde, 1200 chansons chantées dans 7 langues, des spectacles dans 94 pays et 60 participations à des films.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.